Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour partager une conversation avec une experte en calligraphie moderne, Noélie, qui a créé le studio Calligraphique. Elle y propose trois activités, la prestation de calligraphie pour des événements d'entreprise, l'apprentissage de la calligraphie au travers d'ateliers à Paris et la création d'éléments calligraphiés pour la communication. Noélie nous raconte son parcours avant sa reconversion dans la calligraphie et comment son expérience de chef de projet web en agence de communication l'a aidée dans sa nouvelle activité. Elle nous parle également de sa bonne résolution pour découvrir de nouvelles activités créatives une fois par mois et elle s'y tient. Il a été question aussi de la place d'un blog aujourd'hui pour l'animation de sa communauté et la visibilité de son activité. Si vous hésitez à conserver votre blog, cela devrait vous intéresser. Nous avons également évidemment parlé calligraphie, brush lettering et lettrage. Noélie nous a expliqué les différences et donné quelques conseils pour s'équiper. Et sachez que même si vous trouvez que vous n'écrivez pas bien, vous pouvez tout de même faire de la calligraphie. Ce n'est pas du tout incompatible. Allez, c'est parti pour cette conversation autour de la calligraphie.
Bonjour Noélie, je suis ravie de te retrouver pour cette troisième conversation pour le podcast Fais Main. Je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu veux bien et nous présenter ton activité sous la marque Calligraphique.
Avec plaisir, mais bonjour. Bonjour, mais je suis ravie que tu m'aies invitée sur ce podcast et de pouvoir en dire un petit peu plus sur mon métier et tout ce que ça implique derrière, parce que c'est parfois un peu mystérieux quand on parle de calligraphie, donc c'est toujours chouette d'en dire un petit peu plus. Donc je suis Noélie, j'habite à Paris et en fait je suis calligraphe à temps plein depuis maintenant 2 ans. C'est une reconversion pour moi, quelque chose d'assez nouveau d'être à mon compte et d'être calligraphe professionnel. Et c'est un très très beau métier qui me plaît et qui me motive vraiment tous les jours. Et sur ce que ça consiste vraiment, dire qu'est-ce que je fais de mes journées, c'est assez divers en fait, parce que je vais proposer en fait plein de types de prestations différentes avec la calligraphie qui est à la base évidemment. Ça peut être une partie, donc c'est beaucoup pour les entreprises, ça va être pour les entreprises essentiellement de l'animation, donc c'est de la personnalisation pour lors d'événements, des occasions particulières. Ça va être de la création d'identité, donc là c'est à distance où je vais créer des logos, des visuels autour de la calligraphie. Et enfin il y a tout un pan atelier, apprentissage que j'aime beaucoup aussi, où là je vais donner des cours, organiser des ateliers pour apprendre la calligraphie. Donc 3 univers vraiment assez différents avec des clients du coup aussi très différent derrière.
D'accord. Alors, tu nous as dit que c'était une reconversion. Tu faisais quel métier avant ? C'est quoi ta formation initiale ?
Alors, j'ai fait une école de communication et du coup, j'ai travaillé quelques années, presque 10 ans, pas tout à fait, en agence de communication, en agence web. Donc, j'étais chef de projet, je gérais la construction, la réalisation de sites internet. Donc,
d'accord.
Donc un peu rien à voir sur le fond, on va dire, mais
des compétences qui sont très utiles pour le développement de ton activité.
Voilà, parce que tout à fait.
Ton site web, il est super bien.
Donc, merci, c'est gentil. Je suis toujours en train de me dire, oh là là, faudrait que je change ça. Donc je pense que j'ai encore des restes de mon activité de site web où du coup je suis jamais satisfaite. Mais oui, pour le coup, avoir fait de la communication et avoir fait des études autour de ça et avoir travaillé dans le web, dans tout ça, c'est hyper utile parce que il y a des choses, ne serait-ce que construire un site, c'est des choses qui peuvent être coûteuses quand on commence une activité. Oui. Donc j'ai pu déjà moi un peu me débrouiller, alors ça, bon, on peut toujours mieux faire, mais au moins être assez indépendante, autonome sur ce pan-là, et mettre en place des outils de communication qui ont fait aussi que, par exemple pour les ateliers, j'ai pu rencontrer des gens intéressés par des ateliers. C'est vrai que La com, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué parfois. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens très créatifs et qui font des choses superbes. Mais si personne ne le sait et si personne ne le voit, ben, c'est dommage. Voilà, quand on a envie de le partager et encore plus d'en faire un métier, c'est un pan vraiment important. Donc, c'est une chance pour le coup, pour moi, d'avoir pu mettre à profit mes compétences passées.
C'est clair. Tu as eu un déclic il y a 2 ans quand tu t'es lancée ou ça a été progressif?
Ça a été vraiment progressif. En fait, vraiment, la chance que j'ai aussi, je trouve, c'est que tout s'est fait très progressivement dans toute cette évolution. Du coup, j'ai pas eu de moment trop angoissant, un peu page blanche, j'arrête tout, je me lance à fond, enfin, je commence quelque chose de complètement nouveau, je sais pas si je suis légitime, je sais pas si ça va être bien, enfin, bon, y a toujours des doutes, hein, mais ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, j'ai commencé la calligraphie, après, bon, j'ai toujours été assez créative, j'ai toujours adoré le dessin, enfin, tout ce qui pouvait être créatif m'a toujours beaucoup plu. J'avais un peu laissé ça de côté avec la fin des études, le boulot, voilà, comme plein de gens, j'imagine. En préparant mon mariage, je regardais, il y avait plein de choses créatives. Je me suis dit que j'avais trop envie de me lâcher à faire plein de choses par moi-même. C'était le moment de faire plein de choses intéressantes.
C'est clair.
Et il y a, voilà, donc c'était une bonne, un bon événement pour ça. Et je voyais beaucoup sur Pinterest ou sur Instagram beaucoup d'enveloppes calligraphiées pour envoyer les faire-part. Et donc j'ai commencé, enfin je me suis dit ça peut être sympa, j'ai essayé par moi-même, j'ai commencé à m'y intéresser. Et grosse passion, mais un peu pas par hasard, mais presque hein, finalement, parce que j'avais déjà essayé plein d'autres choses avant, il y a plein de choses que j'ai fait un peu comme ça, mais où c'est resté une activité, un loisir un peu sympa. Alors que là, pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de pousser ça. Donc, j'ai pris des cours en ligne, j'ai pris des cours du soir, mais toujours comme un loisir, en me disant, c'est mon nouveau hobby qui me plaît beaucoup, j'y passe beaucoup de temps, mais ça reste un hobby. Et j'ai créé mon blog, parce que voilà, je bossais dans le web, pour moi, j'aime bien... J'avais déjà un blog sur Paris, j'avais envie d'avoir un blog sur la calligraphie, c'est un outil que j'aime, un médium que j'aime pour discuter avec, pour rencontrer d'autres gens passionnés, parce que c'est quand même ça qui est chouette aussi avec Internet, avec les blogs par exemple, de pouvoir parler à d'autres passionnés qui sont à l'autre bout du monde et dire « Ah mais toi tu utilises ce stylo, oui c'est vrai, il est bien !» Donc ça c'est top. Et en fait via mon blog, j'ai commencé à avoir des demandes de gens... qui étaient intéressés pour une carte, une affiche, et puis petit à petit par des entreprises pour une animation, voilà. Donc ça s'est fait vraiment comme ça, je ne l'ai pas particulièrement cherché au début, donc c'était chouette, et puis finalement ça a grossi, et du coup je commençais vraiment à avoir un peu deux jobs en parallèle, ça me prenait mes week-ends, je commençais à devoir poser des vacances pour pouvoir travailler pour des animations de calligraphie. Donc du coup là ça devenait un petit peu lourd au quotidien à gérer, et je me suis dit voilà, c'était un peu, ça faisait 5 ans que j'étais dans la même entreprise, donc j'avais aussi envie de changement, et je me suis dit soit je pars dans une autre entreprise, une autre agence de com, un peu comme je faisais déjà, clairement il va falloir que je m'investisse à fond, j'aurai pas plus de temps pour la calligraphie ou beaucoup moins, soit je me lance dans la calligraphie. Donc ça a été un peu le moment où il a fallu choisir. Et ça faisait déjà voilà, 8 mois, 8-9 mois que je faisais comme ça ponctuellement des petites prestations. Donc c'était bien parce que ça m'a permis de voir déjà qu'il y avait de la demande, qu'il pouvait y en avoir encore plus si je pouvais m'y mettre à fond dessus, à 100%, que ça me plaisait vraiment aussi parce que... voilà. Donc l'inconnu pour moi, c'était vraiment le côté être en freelance, enfin, être à mon compte... travailler seule, de chez moi, ça c'était un gros changement, j'avais toujours été en entreprise, dans des équipes, donc c'était plus ça qui m'inquiétait. Sur l'activité en elle-même, j'étais assez confiante en tout cas sur le fait que ça me plairait, et j'espérais pouvoir trouver des clients, enfin pouvoir en vivre en travaillant plus la communication, et puis voilà, en pouvant proposer différents projets, etc. Donc ça s'est fait, voilà, vraiment... progressivement, et je vois que ça continue d'évoluer encore chaque année. J'ai eu presque beaucoup de bouche à oreille, Donc ça continue d'évoluer, mais je suis contente de cette transition qui a été quand même plutôt douce pour moi.
D'accord. Bon, bah, c'est un super parcours en tout cas. Ça a été difficile de toute la partie un petit peu gestion pour te mettre à ton compte. Tu es en micro-entreprise ou tu as créé
une micro-entreprise ? Alors, je suis en micro-entreprise parce qu'au début, en fait, je l'ai créé en même temps au début quand j'étais encore salariée. Donc, c'était vraiment le profil le plus simple parce qu'on peut cumuler avec mon salaire. Parce que, franchement, pour créer sa micro-entreprise, c'est quelques mini-prises de tête de comprendre. Et encore, ils viennent de changer le site. Donc, c'est un peu plus simple, je trouve. J'ai l'impression que ça a l'air plus simple. Mais c'est quand même très, très facilité par rapport à tout autre type de société. Il n'y a pas besoin d'un comptable. Il n'y a pas besoin d'un compte en banque séparé. Enfin,
il y a
vraiment tout. Ouais, c'est hyper simplifié. Donc, ça c'est top. Franchement, voilà, je peux pas dire que ça a été compliqué. Après, j'avais regardé pas mal de blogs, il y a pas mal de conseils aussi autour, donc on peut trouver pas mal de documentation sur ça, c'est intéressant.
D'accord. Et tu avais prévenu ton employeur que tu avais cette activité à côté ou pas ?
Oui, je les avais prévenus, sachant que du coup, ça n'avait rien à voir, donc
il n'y avait pas de concurrence,
ça
ne
posait
pas
de problème. Ouais. Ouais, voilà, pas du tout. Je sais pas comme si je me mettais à faire des sites à côté. Donc voilà. Donc oui, on en avait parlé. Puis en plus, même c'était au contraire, ils étaient ouverts sur ça. C'était intéressant. Ils trouvaient que c'était intéressant.
Et ils ont pas eu peur que justement se passe ce qui s'est passé, qu'ils te perdent finalement en disant finalement son activité secondaire va devenir son activité principale.
Je sais pas trop. Au début, je pense pas. Parce que bon, c'était vraiment comme ça. Et puis après, quand ça a grossi, on a commencé à en parler aussi. Enfin, c'est quand même. Il y a eu du temps, ça a été progressif. Ouais. Mais c'est vraiment sur les 6 derniers mois que ça s'est fait. Donc après, ça a été progressif, mais rapide dans un temps entreprise aussi. Mais bon, j'ai toujours pu en parler ouvertement. Enfin, c'est vrai que du coup, ils ont toujours été plutôt aidants et heureux de voir que...
Tu t'épanouissais.
Si je partais, c'était pas pour un concurrent, mais pour une passion. Donc, c'était aussi une façon de voir les choses qui était plutôt positive.
C'est clair. Et aujourd'hui, tu as une phase de prospection, entre guillemets, qui est importante ou finalement, tu fonctionnes plutôt avec des demandes entrantes et puis...
Ouais, maintenant, je fais plus de prospection. J'en ai fait un petit peu au début, mais j'ai eu la chance que ça... de pas trop devoir en faire. En fait, ça s'est fait beaucoup progressivement et vraiment de bouche à oreille, j'ai vu que vous avez travaillé pour tel événement, de gens qui changent d'entreprise aussi, qui me disent on avait travaillé ensemble pour telle marque, maintenant j'ai changé, mais je veux qu'on bosse ensemble. Hein, donc ça, c'est des super opportunités. Et c'est vrai que du coup, le problème, c'est que moi, ma prospection, elle est hyper large. C'est vraiment, ça peut concerner n'importe quelle entreprise. Possible, j'ai pas de sujet vraiment de secteur particulier. Donc c'est vrai que du coup en termes de prospection, ça peut être les agences événementielles, ça peut être certaines entreprises, mais c'est large et c'est un peu compliqué. Du coup j'ai préféré me dire que je me concentrais sur avoir un site par exemple complet, où justement quand on cherche en fait calligraphie, animation calligraphie à Paris, on arrive chez moi. Que du coup au lieu de moi et déployer beaucoup d'efforts pour toucher, mais peut-être des gens qui se sont dit que jamais ils organiseraient quelque chose, enfin qu'ils n'organisent pas d'événements, enfin des choses très floues, je préfère me dire que quand ils cherchent quelque chose un peu précis, du coup je suis celle, j'essaie en tout cas d'être celle sur qui ils tombent. Donc passer du temps à avoir un site complet, un portfolio, des PDF prêts, avoir un Instagram aussi. Actif avec pas mal d'exemples parce que les entreprises regardent beaucoup beaucoup Instagram, soit elles me trouvent sur internet, mais elles vont voir mon compte, soit elles me trouvent directement sur Instagram. Donc pour moi c'est vraiment un outil aussi à part entière, donc c'est des éléments sur lesquels je vais me concentrer, je me suis beaucoup plus concentrée que faire du démarchage.
Ouais, d'accord. Et là on voit ton passé de professionnel du web
c'est plus
de référence.
Voilà, et clairement c'est quelque chose que je sais mieux faire, voilà, je sais beaucoup mieux travailler sur un site et faire du référencement, que je ne suis pas du tout commerciale pour me vendre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je suis aussi allée vers ce que je me disais que je savais le mieux faire et avec lequel j'ai
compris. Super. Tu disais tout à l'heure que tu avais toujours créé, dessiné. Est-ce que côté loisirs créatifs, tu as eu aussi des expériences? Alors, donc, loisirs créatifs, c'est très, très large. Hein, donc, c'est effectivement dessin, peinture, mais peut-être après d'autres supports, des matières.
Ouais, en fait, moi, j'aime vraiment bien découvrir un peu tout. Alors, après, ce que je vais faire au quotidien tourne beaucoup autour de plus du dessin, de l'aquarelle, beaucoup du papier. C'est avec ça que je me sens plus à l'aise pour créer, même personnellement, du coup, pour des choses perso. Mais après, j'adore découvrir et je trouve que c'est toujours hyper, hyper inspirant. Et cette année, par exemple, je me disais ça, toujours j'adore créer, mais je ne le faisais pas forcément parce que, il faut se dire comment je découvre, il faut que j'achète du matériel, si après, finalement, ça ne me plaît pas. Fin... Et du coup, cette année, je me suis donnée comme résolution, qui est une résolution très sympa à tenir, donc au moins je me disais que j'allais la tenir, d'essayer de faire un atelier découverte ou créatif, on va dire, par tous les mois. Donc je me suis dit, ça me met une... J'ai un planning qui fait qu'il est assez flexible, donc je peux me le permettre. À mon anniversaire, à Noël, je demande des bons cadeaux pour des ateliers, des choses comme ça. Et du coup, j'ai découvert plein d'activités. Alors, il y a des choses que je ne referai pas forcément. Enfin, je ne me suis pas dit, c'est génial, je vais en faire plein. Mais ça m'a plu à faire sur le moment. C'était une découverte d'artisans aussi, de gens qui sont passionnés. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Et donc voilà, chaque mois, j'essaie de faire un atelier qui m'intéresse. Alors en plus à Paris, il y a plein de choses, hein. Ça se développe en plus particulièrement, donc j'ai largement le choix, je peux continuer l'année prochaine sans problème.
Qu'est-ce qui t'a plu jusqu'à présent?
Alors qu'est-ce qui m'a le plus plu? En début de semaine là justement, j'ai fait un atelier de papier marbré. C'était passionnant parce que du coup je connaissais juste résultat. Donc c'est souvent le papier qu'on voit sur les reliures des livres anciens. C'est vraiment une technique hyper hyper ancienne. Et j'ai découvert du coup que c'était super varié, qu'il y avait selon les époques plein de styles. Et c'est assez accessible. Alors évidemment, c'est pour avoir une vraie maîtrise, c'est un art qui est vraiment complexe, mais en première approche, c'est hyper accessible. Disons que ce qu'on fait dès le début, on se dit déjà à notre échelle, c'est magique, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. C'était une super découverte. Après, j'ai fait par exemple de la broderie, que je connaissais pas du tout, qui est pas mal à la mode en plus. Et ça, pour le coup, voilà, je me suis dit, ça, j'aime bien le faire le soir. J'ai continué à en faire parce que je trouve que ça détend. On n'a pas, ça fait une activité manuelle sans réfléchir trop, c'est hyper agréable. J'ai fait un peu de céramique où je me suis dit que c'était très dur pour le coup, plus dur que ce que je pensais. Je suis d'autant plus admirative du coup de ce qu'on peut voir. J'ai fait des choses hyper différentes et en fait, c'est quelque chose que je conseillerais, on va dire, pour les gens qui aiment ça, mais de choisir un peu au hasard et du coup, c'est toujours hyper, hyper intéressant. Même les gens qui suivent les ateliers, c'est toujours des rencontres intéressantes aussi. C'est un moment, un peu comme on peut s'offrir, un massage ou un soin. Je préfère m'offrir une activité manuelle. C'est ma façon, c'est ma détente mensuelle.
Ouais, c'est génial en plus de tenir ce rythme d'une fois par mois.
Ouais. Ça doit dépendre des caractères, hein, mais je pense, moi, ça me plaît de me dire que je me mets, si je sais que d'expérience, de me connaître, que si je me dis pas, me donne pas un peu une temporalité, comme tout le monde, on pourrait dire ah non, mais ce soir j'ai ça, ah oui, mais là non, je suis crevée, ah là je dois avoir des amis. Enfin, et donc après, on se fait un peu happer par le boulot, le quotidien, plein de choses. Donc de mettre cette temporalité, ça me force à me dire ah là j'ai rien prévu pour ce mois-ci, il faut que je regarde, que je me prévoie quelque chose. Et je le fais avec ou seule ou avec différentes copines, donc c'est des moments sympas.
Les ateliers, tu les trouves, ils sont organisés par des professionnels comme toi quand tu fais tes ateliers, ou c'est des enseignes qui les organisent?
Alors c'est plutôt des professionnels, des artisans qui organisent ça. Je trouve beaucoup, alors soit en direct, Parfois, du coup, quand j'en entends parler aussi, je me note au fur et à mesure pour me rappeler de regarder au fur et à mesure. Et après, je vais pas mal sur le site We Can Do, je sais pas si tu connais,
Non, je connais
qui est un... Ouais, c'est un site super intéressant. En plus, ils ont plus de travail dans... Enfin, ils proposent des sélections, en fait, d'ateliers. Donc, quand les gens sont artisans ou qu'ils ont une activité comme ça, ils peuvent proposer leur activité via We Can Do.
pas.
Donc
Oui,
c'est une
d'accord.
plateforme qui agrège en fait tous ces contenus-là. Et il y a, alors pour Paris, il y a beaucoup d'ateliers. Après, je sais qu'ils ouvrent ça dans plusieurs, au fur et à mesure, dans d'autres villes de France avec du coup, ces ateliers. Donc c'est super parce que là, pour le coup, en un coup d'œil un peu, on peut voir plein de types d'artisanat hyper différents, un peu de tous les prix, un peu
D'accord.
toutes les longueurs.
Et tes propres ateliers sont aussi sur cette plateforme, du coup.
Alors non, je ne les mets pas sur la plateforme. Non, parce qu'en fait, j'en propose pas assez fréquemment, je pense. En fait, sur la plateforme, c'est vraiment souvent...
Avec un planning.
Voilà, il y a beaucoup de dates, c'est une,
D'accord.
deux, trois fois par semaine, donc il faut avoir pas mal de disponibilité. C'est beaucoup des gens qui ont des ateliers, enfin des lieux qui travaillent en atelier, donc ils accueillent les gens dans leur atelier. Moi, quand j'organise mes ateliers, c'est généralement un par mois et c'est dans des lieux de coworking, par exemple, ou dans des salles que moi je réserve. Donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça serait compliqué à mettre sur Week Ando. Donc c'est moi qui le gère tout en entier, j'aime bien.
J'ai vu que tu faisais beaucoup de personnalisation d'objets. Tu avais même fait de la calligraphie sur des
Oui.
baskets, des chaussures. Non, pas des baskets, des mocassins,
Oui,
pardon.
tout à fait.
Ça a l'air génial. Alors, pour le coup, ça... je me suis dit, ah bon, sur des chaussures? Ça m'a un peu surprise.
Tout
Tu
est
peux
possible.
nous en parler? Ça s'est passé comment?
Bah écoute, alors c'est toujours un peu stressant quand on. En fait, plus l'objet, on va dire, qu'on personnalise a de la valeur, plus c'est stressant. Donc quand c'est sur un tote bag, c'est pas très grave. Il y en a...
J'ai vu que tu avais fait sur des mugs
Voilà, ouais,
aussi.
les mugs, bon, c'est un cran au-dessus du stress, mais ça va. En plus, selon la surface, on peut un peu effacer, refaire quand il y a un problème. Là, typiquement, oui, les mocassins en cuir, on peut pas rattraper. Donc il faut être assez sûr de son geste. Mais pour le coup, après, c'est vrai que le résultat est quand même waouh, donc c'est chouette à faire. En fait, moi, j'ai assez tôt, on m'a demandé de personnaliser des tote bags, je pense, la première chose, premier objet, on va dire. Et c'est vrai qu'en fait, que ce soit en magasin, pour les événements, je travaille beaucoup pour des événements, des lancements de produits ou des événements d'entreprise ou en magasin. Donc, on va vouloir faire un cadeau ou permettre en tout cas la personnalisation de quelque chose que les gens ont acheté. Parce que c'est vrai que bah, la personnalisation, c'est hyper en vogue et ça fait toujours plaisir de se dire ben, j'achète quelque chose, je peux le faire personnaliser. Quand c'est un cadeau, de suite, ça a d'autant plus de valeur. Voilà, on aime bien mettre un prénom, une petite phrase, même si c'est. Voilà, c'est de l'achat en magasin, mais on a envie de le personnaliser. Et en termes de cadeaux pour la presse ou des influenceurs, c'est aussi une expérience qui peut vivre, qui peut être sympa. Donc j'ai vraiment beaucoup de demandes autour de ça. Et du coup, j'essaie à chaque fois de trouver aussi des... Donc soit les entreprises viennent avec leurs idées, elles savent déjà ce qu'elles veulent faire personnaliser, soit moi aussi je suis là pour leur proposer des choses en fonction du thème de leur soirée ou du lancement en question. Et du coup, il faut toujours avoir des idées originales. Donc, c'est là où, bah, au fur et à mesure, j'ai élargi ma palette et d'outils et de compétences, du coup, de fait. Après, l'idée reste toujours la même, la compétence reste la même. Et c'est vrai qu'il faut arriver à s'adapter aux matériaux. Donc, pour de la porcelaine, ben, pour des mugs, ça va être des feutres, de la teinture pour porcelaine particulière. Pour le cuir, c'est de la peinture pour cuir. Et donc, bah, du coup, quand j'ai des demandes comme ça, bah, je vois quels produits je peux utiliser, je teste en amont, je fais pas mal d'essais pour voir déjà que c'est de la qualité, que ça tient bien, que je peux gérer moi le flux de la peinture, par exemple. Donc voilà, mais du coup, je suis toujours en. C'est devenu une déformation professionnelle, un peu quand je vois des choses, je me dis, je pourrais personnaliser comme ça, j'ai envie de tout personnaliser chez moi, c'est un peu terrible. Donc voilà, mais du coup, et là par exemple, je commence à proposer c'est vraiment la dernière nouveauté, la gravure du coup sur verre, de la calligraphie. en gravant, donc par exemple pour les parfums, les bouteilles de champagne ou de vin. Donc c'est voilà, en fait ce que j'aime aussi, c'est chercher des nouvelles choses à proposer, des nouvelles, parce que les entreprises, bah, tout évolue, enfin puis elles ont envie aussi de nouveautés, et puis pour que je puisse retravailler avec des entreprises avec qui j'ai travaillé, il faut se renouveler. Je pense que c'est un des challenges aussi, donc c'est toujours hyper intéressant. Après, pour moi, techniquement, moi ça me plaît aussi. Donc
c'est... Et c'est quoi l'objet que tu as personnalisé qui est le plus original, c'était les mocassins.
Les mocassins. Alors après sur le cuir, j'ai les mocassins, mais encore ils étaient rigides, ils étaient pas mal. Ça va. Challengeant, on va dire, c'est que j'ai travaillé pour Montblanc, là, pour leur maroquinerie. Donc là, c'est vraiment donc pour écrire, pour calligraphier des initiales, par exemple sur les porte-cartes, les choses comme ça. Et donc là, c'est un vrai challenge de se dire, là, l'objet qu'on a est particulièrement coûteux. Donc bon, les mocassins l'étaient aussi, mais je pense que les objets Montblanc, en plus les belles boutiques Montblanc, enfin du coup, ça fait une pression en plus. Donc c'est peut-être là où j'ai eu le plus la pression sur par rapport à l'objet, on peut dire.
D'accord. Hein. Mais ça doit être assez dingue de se dire qu'on travaille pour Montblanc par contre.
Et par contre, oui, complètement. C'est très chouette. Et oui, donc ça pour le coup, chaque nouvelle marque, c'est très très chouette. Hein.
J'imagine.
Un vrai plaisir.
Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors tu es active, si je dis pas de bêtises, sur Instagram et sur Facebook. Ton réseau social préféré, c'est plutôt Instagram, j'imagine.
Ouais, complètement. Et en fait, sur Facebook, je vais relayer des photos que je mets sur Instagram. Je vais relayer des événements où je peux être, ou mes ateliers, par exemple. Mais déjà, il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins d'interactions, mais vraiment. Donc, je le fais en me disant que c'est pas inutile, hein, mais c'est vrai que j'y passe pas du temps particulièrement sur Facebook. Alors qu'en revanche, Instagram, y a beaucoup plus de discussions, les gens posent des questions, en story, parce que j'aime bien aussi, j'essaie de faire des stories. Alors après, sur Instagram, les stories, c'est beaucoup autour plus de l'apprentissage et de ce que je peux montrer, des astuces. J'essaie de me filmer en faisant quelque chose ou en testant du matériel. Et ça, c'est vrai qu'il y a vraiment une demande sur ça. Et c'est un petit pratique du coup de dire bah voilà, je vais tester tel stylo, je vous montre, du coup les gens voient la couleur, je peux dire ce que j'en pense, ils me posent des questions, on peut échanger hyper facilement, et à ce titre c'est un outil qui est hyper pratique. Après j'essaie de pas non plus le surcharger de toutes mes attentes, parce que ça reste une plateforme qui est extérieur, enfin, si demain, les règles, on le sait, elles changent souvent, les algorithmes, etc. Donc, il faut pas quelque chose qu'on peut maîtriser comme un blog ou comme un site. Donc, j'en ai aussi conscience et je pense, enfin, après, c'est juste mon avis personnel, mais qu'il faut pas tout mettre, enfin, tout baser, tout fonder que sur Instagram. En tout cas, il faut se dire que c'est une application qui appartient à une entreprise et que demain, si ça n'existe plus, ça n'existe plus. Si ça change complètement, ça change complètement. D'où aussi pour moi l'intérêt d'avoir un blog, une newsletter, pour parler de manière différente aussi
Tout à fait. Mais là aussi, alors moi j'ai le même passé que toi, hein, agence digitale. Moi j'étais plutôt côté digital marketing que création de site. Mais du coup, j'ai le sentiment que cette approche-là, cette réflexion, elle est aussi liée à ton passé web. Parce qu'effectivement, je ne pourrais pas être plus d'accord. Un blog, ça t'appartient, Facebook, Instagram, etc. Les règles sont tellement changeantes.
Exactement.
Aujourd'hui, alors tu as une belle communauté, 5600 abonnés. J'espère que ça va continuer à grimper. Et tu vois sur Facebook, on voit bien les difficultés à aller recruter entre guillemets des nouveaux abonnés. Sur Instagram, c'est plus facile, mais en même temps, c'est pareil. Ces derniers mois, ça a été de plus en plus difficile d'aller faire découvrir sa page à des nouveaux abonnés. Donc moi je suis hyper d'accord avec toi. C'est d'abord le blog et en fait tu relayes sur le blog, sur les réseaux sociaux, pardon, finalement ton travail que tu mets en avant sur le blog.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que typiquement, je me pose la question de je vais enfin, j'ai envie de faire des petites vidéos, plus de vidéos pour montrer les outils que je teste. Et c'est vrai que je me dis, ben, si je l'ai fait pour Instagram, c'est pratique. À la fois, c'est sûr que ça va être bien et ça va être vu. Mais bon, c'est un peu un contenu qui disparaît vite. Alors, même si je le mets à la une dans mes stories, etc., c'est un peu compliqué. Donc, j'ai envie de me dire, bon, ben, du coup, et du coup, pour moi, c'est du temps passé qui a un résultat un peu court. Alors, je me dis, bah, peut-être que je vais faire ça, parce que je vais quand même faire ces vidéos parce que je trouve ça intéressant, mais peut-être que je peux les filmer aussi pour les mettre sur YouTube, ou au moins prendre des photos du résultat pour en faire un article de blog. Enfin, c'est vrai que j'essaie de penser comme ça, global, pour pas passer des heures pour quelque chose qui a un résultat quand même assez éphémère et rapide sur Instagram. Pour du coup voilà, se dire quand je crée un contenu, je peux m'en servir sur plusieurs réseaux différents, plusieurs supports. Donc c'est une vision un peu marketing en effet de se dire ça, je pense, mais ça fait gagner et du temps et de l'énergie, quoi. Je pense que dans le milieu créatif, c'est bien d'être, c'est important d'être créatif, évidemment, mais c'est un atout, je pense, en tout cas, d'avoir aussi une vision. Enfin, surtout quand c'est un hobby, voilà, au contraire, il faut arriver à se détendre sur ça, mais quand c'est devenu professionnel, d'arriver à penser à ça, à se dire le temps passé, il faut que je le rentabilise quelque part pour mon boulot, parce que c'est ça qui me fait payer mes factures et vivre. Donc même si c'est de la création, il faut que ça, je puisse en vivre.
Ouais, pérenniser un petit peu les contenus que tu produis, c'est clair.
Exactement, ouais.
Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton activité ? Tout à l'heure, tu as parlé du fait d'être seule. Est-ce que ça te pose un souci de plus travailler en équipe, entre guillemets, ou...
Alors non. Et du coup, c'était mon challenge. Enfin, c'était ma question. En fait, je me disais, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais travaillé seule, je n'ai jamais vécu seule. Enfin, je n'ai jamais été très seule. Je ne suis pas très solitaire de base, hein, mais donc voilà, je me disais, bon, bah, on va voir. Et en fait, ça c'est hyper bien passé. Alors au début, j'ai mis un peu de temps évidemment à trouver un rythme, à trouver une organisation, et bon, c'est toujours fluctuant, hein. Enfin, c'est toujours en réflexion, mais j'ai plus trouvé mon rythme, et en fait, je me sens pas seule du tout. Alors après, je travaille pas mal, bon, déjà, je travaille beaucoup, enfin souvent, du coup j'ai des animations, des choses comme ça, donc je rencontre des gens, je sors, je suis pas toute la journée, pas forcément dans une semaine, il y a toujours des moments où j'ai des activités pro. Après, je travaille aussi du coup pas mal, de plus en plus avec, j'ai une voisine qui est freelance, donc on se fait des sessions où on travaille, chacune travaille sur ses projets, mais on se met ensemble, comme ça on fait des pauses, on discute un peu. Voilà, je vais travailler avec d'autres, souvent des nanas, d'autres nanas freelance, ou du coup dans des cafés, des choses comme ça. Donc c'est hyper sympa, du coup, parce que c'est aussi plus rare, et donc j'en profite d'autant plus. Et le temps que je passe chez moi, du coup j'apprécie vraiment de pouvoir m'organiser comme je veux, de le faire à ma façon. Alors après, faut pas oublier de se remettre en cause aussi parfois, mais en tout cas de le faire à mon rythme, et de se dire que bah oui, là j'ai envie de faire une pause parce que je sens que je suis plus du tout concentrée, bah je fais la pause maintenant, alors que je sais pas si j'ai envie de manger à 15h, je mangerai à 15h, ou bon, j'essaie d'être plutôt structurée, mais dans l'idée c'est un peu ça. Du coup, ça m'a, cette liberté qu'il n'y a pas trop en entreprise où on est obligé d'être dans un rythme commun, c'est normal, hein, mais j'avoue que ça me fait plaisir, et d'être aussi assez mobile, je bosse aussi quand même pas mal sur mon ordinateur, donc du coup de pouvoir aller bosser dans des cafés, c'est hyper agréable. Donc je me suis vraiment très bien fait à ce rythme, mais j'aurais beaucoup de mal à revenir à un autre en entreprise, ne serait-ce que pour ça, je pense. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai essayé de garder... j'ai quand même un rythme très bureau, sur les horaires en tout cas. J'essaie vraiment, je commence à, je sais pas, 9h, 9h30, et je finis à 18h, 18h30. Enfin, je fais une pause déj obligatoire. Je me dis, pas en travaillant. J'essaie vraiment de garder ça. Je suis habillée, coiffée. Enfin, après, bon, je pense ça dépend. Non, je suis pas jamais en pyjama. Donc, je pense ça dépend aussi, voilà, hein, des envies, des caractères. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être prête un peu pour me dire, allez, Je commence ma journée, hop, je finis ma journée. Je ne pourrais pas trop gérer l'entre-deux. Mais ça, je pense qu'il y en a qui le font très bien, pour le coup. C'est vraiment, je pense, plus du caractère, ou enfin, c'est assez personnel. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce côté organisé pour me structurer.
Est-ce qu'il y a un cliché auquel tu as dû faire face dans ton métier, quelque chose, ou des questions qui reviennent souvent, soit sur le fait des freelances
Oui, alors le cliché, je dirais, sur la calligraphie, c'est le côté vieux, pas moderne. Moins quand même aujourd'hui. Et puis bon, les gens, après, du coup, qui viennent chercher la calligraphie, qui cherchent à apprendre ou à faire de la calligraphie, eux, pour le coup, ils ont quand même quelque chose en tête de plus moderne. Mais ça va plus être, oui, quand je dis que je suis calligraphe, la calligraphie, c'est un peu Moyen-Âge, c'est un peu la plume d'oie, et les moines copistes, quoi. Donc, ça, c'est quand même un cliché encore existant sur la calligraphie, bien que ça change beaucoup, et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus connu, la calligraphie, on voit de plus en plus de choses passer. Instagram sert à ça aussi, on dit souvent « Ah oui, les vidéos sur Instagram de gens qui font la calligraphie, c'est joli ». Donc ça se démocratise beaucoup, donc je me dis que petit à petit ce cliché n'existera plus. Et sur le côté freelance, c'est beaucoup... un peu tous les clichés de freelance ou de « Ah, mais tu as envie, comment tu fais ?» Enfin, ça peut être un métier. Mais bon, qui est une question assez juste, hein, que moi, je me pose aussi par rapport à d'autres métiers. Parfois, quand les gens me disent, je me dis « je savais pas que ça pouvait... » Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi ? On sait pas forcément... on comprend l'idée, mais comment la personne... qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? Qu'est-ce qu'elle propose ? C'est toujours un peu mystérieux. Donc, c'est une question gentille. Enfin, je suis contente... toujours contente d'y répondre.
Tes proches, peut-être ta famille ou ton compagnon, si t'en as un, est-ce que quand tu t'es lancée, ils t'ont soutenue ?
Ouais, franchement, j'ai été hyper, hyper soutenue. Ma femme, j'ai une femme, elle m'a complètement soutenue. Enfin, elle était hyper contente pour moi que je me lance. Enfin, elle sentait que, voilà, elle était forcément un peu inquiète de la viabilité, mais à la fois elle savait que je ferais, enfin, en tout cas elle était tellement sûre de ma motivation et du fait que je donnerais tout pour que ça marche qu'elle n'était pas inquiète, voilà, au moins sur le fait que j'étais hyper motivée et que c'était possible de le faire. Et voilà, c'est toujours un soutien. Au début, elle m'aidait beaucoup sur même le matériel, s'il fallait aller les chercher, je ne sais pas, des trucs parce que j'avais oublié de racheter de l'encre ou quoi. Enfin, voilà, elle était complètement là au quotidien. Et mes parents, ma famille, enfin, pareil. Alors, après, ils sont aussi entrepreneurs. J'ai un frère qui est entrepreneur, mon père est artisan. Donc,
oui, il y a ça dans la famille.
Voilà, disons qu'en tout cas, ils n'ont pas travaillé en entreprise toute leur vie. Donc, pour eux, c'était pas... c'est pas gênant.
Une prise de risque.
Voilà, ouais, je pense qu'ils étaient quand même plus habitués et c'était pas si éloigné de leur parcours à eux. Et ils étaient plutôt fiers et pareil, je pense qu'ils m'ont fait confiance, enfin, en tout cas, dit qu'ils me faisaient confiance et c'est vrai que ça m'a. Déjà, c'est toujours une période où on doute forcément beaucoup, donc c'est vrai que quand on a un entourage qui te motive, qui te dit. Tu vas y arriver, enfin, c'est bien, et si tu as besoin d'aide, on est là, de suite, c'est clairement un vrai plus, quoi, parce que ça aide d'avoir la motivation des autres pour s'assurer.
Pour se lancer.
Ouais, ouais, complètement.
Tu parlais de doute, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est une expression que tu connais pas ?
Si, oui, c'est une expression que je connais. Alors, je sais pas, je dirais pas ça parce que je pense que... Enfin, je dirais pas que je l'ai, mais et je pense qu'il faut que... Je me pose pas trop de questions sur ça. Alors, s'il y a des moments où je doute, évidemment, comme tout le monde, et je me dis, ça va pas, je vais pas, c'est compliqué, etc. Mais, voilà, je me dis que si je le fais et qu'il y a des gens qui aiment bien, c'est que... je suis pas la meilleure, il y a forcément toujours meilleur que soi, et quand je vois ce que j'ai fait, quand je vois ce que je proposais au début, je me dis maintenant c'est mieux, et je sais que dans 5 ans, j'espérais que je ferais toujours ça et que je regarderais ce que je fais aujourd'hui en me disant je peux faire mieux, parce que c'est l'idée de tout métier, de toujours s'améliorer. Donc j'essaie de pas être dure avec moi, enfin voilà, de pas m'inquiéter sur ça, sans être prétentieuse ou trop sûre de soi non plus, hein, mais je pense que chacun peut vraiment y arriver, et en se le disant, on y arrive aussi. Enfin, il n'y a pas pire ennemi que soi-même, finalement. Donc, j'essaie de pas moins me remettre en question. Je me dis qu'il y aura déjà assez de... Enfin, le jugement des autres, voilà, si je peux m'éviter le mien, au moins, ou en tout cas être assez gentille avec moi-même, ça sera déjà plutôt bien.
Quelles sont tes sources d'inspiration ? Est-ce que c'est le quotidien, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'inspire ?
Ouais, ça va être vraiment le quotidien, en effet, parce qu'en plus, c'est quand même très saisonnier comme travail. Enfin, c'est-à-dire que bah, voilà, il y a vraiment le côté, va y avoir Noël, va y avoir le printemps, l'automne. Enfin, il y a toujours des choses. Donc ça, c'est chouette, parce que du coup, ça permet de renouveler plein de choses, et des projets, et même juste la créativité qu'il y a autour, les couleurs, tout ça, hein, forcément. Et donc ça, c'est assez sympa. Après, je regarde pas mal de... Alors, j'ai une relation un peu amour-haine, on va dire, avec Pinterest ou Instagram, où j'essaie de... Parfois, j'ai envie de regarder, et puis... Pour le coup, là, en effet, quand on regarde, et je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais quand on regarde plein de choses, on se dit « Ah, mais en fait, c'est mieux ce que je fais. » Enfin, voilà, c'est ces moments-là où on va un peu douter. Donc après, je fais des grosses cures où je ne regarde plus du tout, ou très peu, pour me permettre de créer. Donc ça, je l'ai vraiment... Je m'en rendais pas trop compte au début, je pense, et puis je l'ai un peu mis le doigt dessus. Et donc j'essaie vraiment d'être plus... voilà, de pas arriver à ce côté je regarde et je fais pas, parce que bah, on se dit toujours ah mais oui, mais cette personne elle fait mieux que moi, bon, mais sauf que cette personne, ou peut-être qu'elle fait ça depuis 20 ans et que elle y passe 10 heures par jour, donc et ça marche pour un peu tout dans la vie, donc la comparaison, elle est, c'est bien de se dire qu'il faut pas se comparer, mais à la fois quand on regarde, c'est dur de pas le faire, donc c'est vrai que parfois je fais un peu de détox où je regarde pas, pour pas, enfin où je regarde des choses qui n'ont rien à voir, plutôt voilà des choses créatives, ça peut être de l'illustration, enfin des choses que je ne fais pas moi, mais qui vont être intéressantes en termes de couleurs, d'idées, de matière, de matériaux. Mais c'est vrai que parfois je trouve que ça peut être bloquant, et c'est ce que je conseille aussi à mes élèves quand je fais des ateliers, je leur dis regardez Instagram, c'est bien, ça donne des idées, c'est top, vraiment j'aime beaucoup, mais ne vous comparez pas, et donc ne passez pas votre temps à regarder, parce que sinon on fait jamais, encore moins quand on débute, parce que c'est vraiment démotivant sinon de se dire je regarde, ben oui, ça sert à rien que je commence parce qu'il y en a plein qui font mieux que moi, mais bon, à ce compte là on ferait jamais rien, donc vraiment, je leur conseille de pas, voilà, de se mettre quelques petites créations, par exemple, qu'elles aiment bien, d'inspiration de côté. Mais après, de se lancer. Il faut aussi commencer, pas toujours regarder, parce que sinon...
C'est clair, ouais. Toi, tu as préparé beaucoup de ressources qui sont disponibles sur ton blog. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connue, parce que je commençais à... moi, je fais beaucoup de cartes. Ouais,
d'accord.
Je commençais à un moment donné à me dire, mince, comment je vais écrire des jolies choses, enfin, des choses, mais de manière jolie, sur mes cartes. Et donc, je me suis intéressée à la calligraphie moderne, au hand lettering, au brush lettering, etc. Alors j'ai vu que tu disais qu'en fait le lettrage et la calligraphie, c'était deux choses différentes. Tu peux nous expliquer ?
Oui, c'est différent, et le problème, c'est que, le problème, c'est que, en tout cas, on entend ces termes un peu dans tous les sens, et parfois pas toujours bien, voilà, utilisés. Donc c'est aussi confusant pour tout le monde. Hein, je le comprends complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la calligraphie, étymologiquement, c'est l'art de la belle écriture. C'est vraiment belle écriture en grec ancien. Donc, c'est le fait d'écrire. Donc, on va écrire avec un outil particulier, sur un support particulier, avec un style particulier. Donc, il y a plein de styles, plein de façons de faire, mais ça restera de la calligraphie parce que c'est de l'écriture. Donc, ça veut dire qu'on va tracer les lettres les unes après les autres, sans s'arrêter, enfin, en tout cas, sans reprendre... on va lever le crayon, évidemment, mais on va pas revenir sur ce qu'on a fait, gommer, recommencer. Donc c'est vraiment de l'écriture. le lettrage, quand on dit vraiment le terme lettering ou lettrage, qui n'est pas toujours bien utilisé, hein, mais techniquement, c'est vraiment le fait de dessiner des lettres. Donc ça veut dire que là, on va dessiner. Donc chaque lettre, elle va pouvoir être différente. Elle va pouvoir avoir, on pourra avoir un M qui descend, un M qui monte. Enfin, on pourra avoir des formes différentes. Et là, on va dessiner notre lettre, gommer, revenir, puis la colorier, la passer à l'encre, enfin, peu importe. Mais on va être dans du dessin, sauf qu'au lieu de dessiner des objets, des gens, on va dessiner des lettres. Donc ça, c'est la vraie grosse différence. Et alors, ce qui est un peu troublant, on va dire, c'est que le brush lettering, pour le coup, c'est de la calligraphie, parce que c'est écrire au feutre pinceau. Donc, il y a le mot lettering dedans, mais en vrai, c'est de la calligraphie, sauf qu'au lieu de la calligraphie, souvent, on pense plume, encre, mais en fait, la calligraphie peut se faire au feutre pinceau. Donc, on dit brush lettering, parce que c'est le terme qui s'est démocratisé, et c'est parlant. Mais ça reste, en vrai, c'est de la calligraphie moderne.
D'accord. Et toi, tu préfères quoi ? Alors, j'imagine que c'est plutôt la calligraphie, mais en termes...
Alors, moi,
quels sont les outils, les crayons, les pinceaux ? Quelle est la manière dont tu préfères travailler ?
C'est vraiment différent. J'aime bien varier, en fait. Donc, je fais vraiment essentiellement de la calligraphie, peu de lettrage, du lettering, ou plus pour moi, pour le coup, en perso, enfin voilà, pour mon plaisir. Mais après, ce que je vends, on va dire, ce que je propose professionnellement le plus, c'est vraiment de la calligraphie. Ce que j'aime dans la calligraphie à la plume, à l'encre, c'est que de suite, on va avoir un résultat très élégant, qui peut être très moderne. C'est pas forcément trop classique, mais il y a quand même une touche, voilà, quelque chose de sobre, assez neutre, qui peut vraiment, sur une enveloppe, un marque-place, même une affiche, qui peut être très jolie. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et à l'inverse, tout ce qui est feutre, brush lettering, ça permet, alors c'est moins chic, on va dire, de suite, c'est un peu moins élégant, ça peut faire moins professionnel, typiquement, enfin, voilà, des enveloppes, des choses comme ça, je les fais généralement à la plume. Sauf quand c'est des styles très particuliers, mais le feutre derrière c'est beaucoup plus, ça reste plus fun, c'est pratique, c'est coloré, on peut le faire en or, mais on peut aussi s'éclater avec des couleurs, on peut mixer les couleurs, donc c'est presque plus créatif. Et du coup j'aime beaucoup les deux et je serais pas capable de choisir parce que j'aime bien l'équilibre entre les deux.
Sur les outils que tu utilises, donc tu parles de plumes, d'encre, c'est quand tu fais de la calligraphie, c'est vraiment ce que tu utilises?
Oui, quand je fais de la calligraphie, c'est souvent ce que j'utilise. Alors, dans les animations que je propose, c'est qu'on va souvent sur des objets. Donc là, c'est vraiment des choses, ou de la peinture, ou des feutres particuliers. Après, quand je fais de la calligraphie sur papier, ce que je vais faire pour les entreprises ou pour les mariages, par exemple, ça va être beaucoup d'enveloppes, de marque-place. Là, c'est très souvent de l'encre, de la peinture, enfin, de l'encre colorée et de la plume. C'est vrai que c'est le résultat, le rendu qui est le plus sympa, sachant qu'en plus, il y a plein de styles possibles derrière. Donc, même à la plume, on peut faire plein de styles différents.
Est-ce que tu peux nous conseiller des marques, par exemple pour de l'encre, pour des feutres pinceaux? Je crois que tu, dans tes guides pratiques sur le blog, tu en conseilles à ceux qui voudraient se lancer?
Oui, complètement. Oui, j'essaie d'en tester pas mal. J'ai la chance aussi que parfois certaines marques, pas tout le temps, pas tout ce que je teste, mais parfois les marques m'en envoient, donc c'est bien aussi de pouvoir tester. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé, bon, c'est la question un peu que tout le monde se pose, hein, quand on commence, souvent n'importe quel loisir, hobby, c'est le matériel. C'est vraiment ce que je me suis demandé au début, que j'ai un peu eu du mal à trouver, parce qu'en plus c'était à l'époque un peu moins développé en France, il n'y avait pas de... Je trouvais pas de support français qui en parlait, donc je regardais des choses aux États-Unis, mais du coup après souvent c'est des produits qu'on trouvait que là-bas, donc ça commence à être un peu compliqué à faire venir, enfin coûteux du moins. Donc c'est vrai que ça j'ai vraiment essayé j'essaie toujours de le faire beaucoup sur le blog, de tester, de montrer, de donner mes plus, mes moins complètement. Pour tout ce qui est calligraphie à la plume, moi ce que je conseille beaucoup c'est en fait c'est surtout au niveau des plumes, bon, après c'est assez technique et précis, mais c'est vraiment la plume qui va faire la différence. Et pour le coup, les plumes françaises ne sont pas trop faites pour la calligraphie. Enfin, en tout cas, il n'existe plus en France de vraies plumes, enfin, de plumes comme moi j'utilise, de plumes de calligraphie flexibles. C'est plus des plumes biseautées avec une pointe un peu carrée qui font un peu un côté. Alors, qui peuvent être sur des cils très, très sympas qu'on a su bien moderniser, mais qui servaient aussi à faire ce côté un peu style moyenâgeux, justement, que. Bon, j'aime moyen et que souvent le cliché qui peut être véhiculé. Moi j'utilise des plumes pointues qui sont plus des marques japonaises ou américaines. Donc ça c'est du coup souvent je conseille d'aller vers des sites alors anglais jusqu'à présent pour payer moins de frais de port. Maintenant je sais plus trop si ça va pouvoir durer comme astuce, mais bah, des sites européens ou américains où on va trouver des plumes bien. Pour l'encre, de l'encre de Chine, c'est très bien. Pareil, il y a beaucoup d'encres japonaises qui sont super. Donc des marques comme Kuretake, ils proposent, on peut les trouver en ligne, hein, des choses vraiment assez qualitatives. Mais en soi, voilà, l'outil, c'est vraiment la plume qui est un peu le plus compliqué à trouver. Après, on peut trouver le reste assez facilement. Les éléments de base en magasin sont bien.
D'accord.
Pour les feutres, moi, j'utilise beaucoup. Enfin, pour mes ateliers, j'utilise les feutres Edding. Ils ont un très bon rapport qualité-prix en fait. C'est aussi ça qui est important, je trouve, le prix des éléments, parce que bah, quand on commence une activité, on n'a pas envie de mettre 100 euros dans des feutres, dans une boîte de 50 feutres. Enfin, il faut aussi se dire tester déjà, se dire est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'on a envie de continuer, pourquoi pas après développer ce qu'on achète. Mais pour un premier achat, les Edding ils sont super parce qu'ils sont peu coûteux. Ils sont solides pour les utiliser en atelier, ils ont une bonne durée de vie, il y a plein de couleurs, donc les Edding Brush Pen ils sont vraiment bien.
Ouais.
Et après j'utilise aussi pas mal la marque Tombow qui est un tout petit, enfin c'est leurs pinceaux sont un peu plus flexibles, leurs feutres pinceaux un peu plus flexibles, donc en tout débutant ils peuvent être un peu plus compliqués à appréhender. Mais après, l'avantage, c'est qu'ils ont une double pointe, il y a des centaines de couleurs, donc ça c'est, enfin, plus de 100 couleurs, donc c'est très chouette. On peut trouver toutes les nuances qu'on veut. Donc dès qu'on est un tout petit peu plus aguerri, il ne faut pas hésiter à en acheter. Pareil, pour le coup, ils sont un peu plus coûteux. Mais voilà, du coup, quand on s'est un tout petit peu entraîné, qu'on a envie de continuer, c'est top pour acheter des nuances de couleurs ou pour tester un autre outil.
Très bien.
Ouais, c'est vraiment les marques que je conseille le plus souvent. Et après, de ne pas hésiter à parfois acheter. Souvent, ils sont vendus à l'unité, les feutres, par exemple. Donc, ne pas hésiter à acheter juste un feutre avant de se lancer dans le coffret et d'être déçu et de se dire « Ah non, j'ai mis 40 euros dans ce coffret, je ne vais jamais m'en servir. » Enfin, voilà. Donc, d'acheter un feutre, de le tester et après de se dire lequel je préfère et lequel j'achète, dans lequel j'achète plein de couleurs. Voilà, d'y aller progressivement, ça permet de moins être déçu,
ouais. Ok, super. Bon, c'est les deux marques que j'ai.
Bon, mais parfait alors. Mais c'est celles que je conseille sur mon blog aussi, du coup.
Pour les personnes qui se disent bah non, je ne peux pas faire du brush lettering ou de la calligraphie, j'écris trop mal. Parce qu'on est vraiment, aujourd'hui, on est moins habitué à écrire. Hein, on écrit
oui.
Beaucoup à l'ordinateur ou sur nos téléphones. Mais mis à part peut-être la liste de courses, on n'écrit plus
beaucoup.
Quels conseils tu aurais à leur donner ?
Alors en fait, c'est vrai que j'aurais pu, j'y ai pas pensé, tu vois, mais quand tu me demandais quel cliché j'entends le plus, c'est peut-être celui-là aussi. Le bah, c'est pas pour moi, j'écris mal. Et en fait, il faut vraiment se dire que ça n'a rien à voir. Moi, j'écris pas, j'ai pas une jolie écriture naturelle. Si j'écris ma liste de courses, c'est mal écrit. Y a des gens qui ont des plus ou moins jolies écritures, en effet. Franchement, j'ai pas une jolie écriture naturelle. Mais en fait, ça n'a, il faut se dire que c'est de l'écriture, mais ça n'a quand même rien à voir. Et c'est vraiment d'ailleurs deux choses différentes. Si on veut changer son écriture, il ne faut pas particulièrement faire de la calligraphie. Il y a des exercices qui existent pour améliorer son écriture. Parce que quand on écrit, on ne fait pas du tout marcher les mêmes zones du cerveau, on va dire, les mêmes muscles du cerveau, que quand on va calligraphier. Ça reste de l'écriture, parce que c'est des lettres qu'on connaît, donc c'est la même base. Mais c'est vraiment une technique hyper différente. On va suivre des alphabets, donc on ne va pas faire avec notre écriture. Souvent, aujourd'hui, on mélange, enfin, au fur et à mesure qu'on grandit, quand on devient adulte, on mélange les scripts, les lettres attachées, détachées, enfin, ça n'a plus de structure. Donc là, on va vraiment suivre des alphabets, on va aller très lentement là où, en écriture, ben, l'objectif de l'écriture, c'est de prendre des notes, enfin voilà, d'avoir de l'information, de noter des choses. Là, l'objectif, ça va être que ce soit beau. et c'est tout. Grosso modo, de se faire plaisir en le faisant. Mais donc, du coup, ça va vraiment changer les choses. Et il n'y a aucune corrélation entre le fait d'avoir une belle écriture et de bien calligraphier.
Eh ben, c'est génial. Ça va rassurer plein de gens.
C'est une bonne nouvelle. C'est la seule corrélation qu'on peut avoir que je vois parfois, c'est juste les gens qui parfois sont au fond du dessin ou voilà, ont des pratiques artistiques. Ils vont parfois avoir le geste plus sûr ou une meilleure perception de l'espace. Ça peut un peu jouer. Mais l'écriture en elle-même, ne change vraiment, vraiment rien. Il faut vraiment le décorréler de ça. Si on est gaucher aussi, ça change rien. C'est possible complètement. C'est un peu plus compliqué dans la tenue de la plume, notamment parce que c'est vrai que selon la façon, justement, l'habitude qu'on a d'écrire, on ne peut pas se mettre dans toutes les positions à cause de l'encre. Mais du coup, pour le brush lettering, il n'y a aucune contre-indication. Il y a des grandes calligraphes qui sont gauchers. Donc, complètement super. Accessible à tous.
Alors, maintenant, si on parle un peu des perspectives, comment tu vois l'avenir, je pense par exemple à l'écriture d'un livre. Est-ce que tu y as déjà pensé?
Alors, il y a déjà quelques livres qui existent. Il y a déjà pas mal de livres. Il y a des livres. Il y en a quelques-uns. Alors, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, c'était de calligraphie très classique. Donc c'est intéressant pour le côté histoire de la calligraphie. Sur la technique, c'était moins ce qui me plaisait, mais c'est intéressant à découvrir au début. Après, du coup, moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté des bouquins américains parce que ils étaient plus en avance que nous, pour le coup, sur ce domaine-là, sur la calligraphie vraiment moderne. Et au final, je me suis rendu compte que ce que j'aimais aussi, les livres, c'est bien et c'est inspirant. Mais la calligraphie, c'est très pratico-pratique. Enfin, il n'y a pas 1000 choses à dire autour. Il faut faire, quoi. Il faut essayer, tester. Et donc, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'était plus chercher des fiches pratiques, en fait, des workbooks, enfin voilà, des manuels, plus que des livres, des choses sur lesquelles je peux écrire. J'ai un guide, puis j'ai ma lettre, puis ma lettre en grisé, puis ma lettre en pointillé, puis j'ai plus de lettres. Il faut que j'y arrive toute seule. Enfin. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus aidant pour apprendre, au-delà du coup de l'inspiration. En fait, après, il y a des livres qui sont plus inspirants, mais pour le côté plus vraiment pratique, je trouve que les fiches pratiques marchent vraiment bien. Et du coup, là, moi, ce que j'aimerais justement développer, et j'ai vraiment pour projet là d'avancer dessus sur la fin de l'année, c'est plus justement des livrets à télécharger. Pour les personnes, sur un peu la base de ce que je propose en atelier, mais bon, les ateliers, c'est limité, c'est à Paris, c'est une fois par mois, enfin, donc j'ai bien conscience que ça intéresserait d'autres, j'espère en tout cas que ça intéresserait d'autres personnes ailleurs, donc des livrets très guidés, avec un peu tout ce que je peux donner comme info, comme astuce en atelier, mais là, du coup, de manière écrite et illustrée, des photos, des croquis, enfin, ça reste à définir, mais assez guidé pour justement que les gens puissent l'imprimer, ou alors après, je ne sais pas encore exactement quel format, mais en tout cas, que ce soit un outil, un livret d'exercice pour les gens, pour qu'ils puissent s'entraîner dessus. C'est ça qui me...
Ok, bah génial. Effectivement, oui, les livrets, c'est très important si on veut travailler son style et la calligraphie, quoi, parce que sinon... Je suis d'accord avec toi sur un livre.
Exactement.
Ça rend les choses très concrètes avec un livret et ça, c'est super.
Exactement, c'est ça. Un livre, c'est hyper chouette. Après, moi, j'en ai pas mal, par exemple, sur le lettrage, où ça donne du coup des super inspirations, des super idées. Mais quand on veut se lancer, il faut un crayon et ça peut être pas mal d'être guidé justement pour ça. Et je pense que ça peut aider. C'est vrai que ce qu'on me dit souvent dans les ateliers, j'ai essayé seul, même en regardant des vidéos et tout, quand même, c'est toujours intéressant. Enfin, y a déjà des choses qui existent, mais il me manquait le petit conseil, le petit truc qui fait la différence. Donc, ça pourra jamais être aussi personnalisé qu'un atelier, mais en tout cas, mon envie, c'est d'aller un peu vers ça, de pouvoir proposer des choses avec les conseils et les astuces et de me servir du coup de l'expérience des 2 ans d'atelier que j'ai fait où j'ai les questions, les retours. Ça, c'est important parce que je me suis vraiment rendu compte via les ateliers des questions que les gens se posaient, des choses sur lesquelles ils butaient aussi. De toutes les petites astuces qu'on peut avoir pour apprendre plus facilement.
Super. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes prochains challenges créatifs? Il y a ce livret qui est en préparation. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu travailles?
Oui, complètement.
Tu peux nous parler?
Bah, va y avoir ce livret, peut-être, alors en même temps ou dans un deuxième temps, plus probablement, peut-être accompagné de cours en ligne, de vidéos. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer aussi. Voilà, donc soit c'est encore un peu flou sur la forme, mais en tout cas, soit en accompagnement délivré, enfin en bonus, en plus, complètement indépendant. Voilà, je ne sais pas exactement, mais c'est des choses. Donc la partie apprentissage, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer parce que c'est ce que je trouve super intéressant. La partie prestation avec les entreprises et tout, ça me plaît beaucoup, mais ça demande moins de temps finalement. Enfin, c'est des choses, c'est très ponctuel, c'est une journée, une soirée, voilà, des choses comme ça. Donc après, ça demande de la préparation, mais ça reste gérable, on va dire. Et la partie cours, c'est pas ce qui me fait le plus vivre. Si on veut parler vraiment pratico-pratique, là financièrement, c'est pas ce qui me fait le plus vivre, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'aime. Voilà, je trouve ça hyper intéressant de partager, d'avoir des retours. C'est hyper touchant. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer et du coup de le développer de manière aussi plus
Tout à fait.
digitale ou enfin dématérialisée pour pouvoir toucher plus de monde que les personnes qui viennent aux ateliers.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton plus gros challenge jusqu'à présent ou des choses qui se sont moins bien passées que tu aurais prévu?
Alors, mon plus gros challenge, en fait, je dirais que le plus gros challenge en général, au début encore plus, c'était vraiment pour moi, de me vendre enfin, la partie commerciale, financière, voilà, parler des devis, défendre, se dire face aux gens qui négocient. Enfin, et c'est normal, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas une formation de commercial, c'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise, donc ça c'est vraiment, et ça l'est toujours, mais ça l'était particulièrement encore plus au début, hyper challengeant d'arriver à, bah là pour le coup faut dire qu'il faut être vraiment, voilà, trouver le bon prix, savoir répondre quand on se dit ben non c'est trop cher, bah, ok, enfin voilà, donc se dire ben qu'est-ce que je dis oui, je dis non, enfin faire des choix aussi. Parce que du coup là on est seul un peu face à ses choix, donc enfin en tout cas on est seul responsable, donc on sait que bah, c'est une belle marque, mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça à très peu cher gratuitement, est-ce qu'il faut défendre son bistec, est-ce que donc ça a été toujours le plus gros challenge clairement pour moi.
D'accord. Et alors, pour terminer, quelle est ta plus grande fierté?
Et ma plus grande fierté, bah, je pense que c'est c'est pas un événement particulier, enfin, parce qu'après presque chaque nouveau événement, pas presque chaque nouveau, mais en tout cas, je me dis, oh là là, ça, je suis trop contente. Parfois, c'est des grosses marques, on va dire, donc c'est chouette. Parfois, c'est des plus petites marques, mais que je connais, enfin, que j'utilise moi-même. Donc, je me dis, oh, c'est dingue, c'est fou. Peut-être des rencontres, enfin, il y a plein de petites choses, mais du coup, c'est vraiment de me dire que, ben, en 2 ans, maintenant, j'arrive à en vivre. Voilà, c'est mon métier, ça me permet de pouvoir en vivre à Paris. Donc ça, c'est une chance et à la fois c'est dû à pas mal à beaucoup de
À du
travail et
travail.
de voilà complètement et donc d'implication et donc je suis fière de ça et de me dire que j'ai eu raison de voilà de me faire confiance en tout cas de me lancer et de continuer quoi et donc c'est une fierté de voilà d'être à mon compte et de bien m'en sortir et de faire un métier que j'aime chaque jour.
Ok, bah effectivement, t'as raison, je pense que c'est le plus important.
Voilà, c'est une fierté globale.
Merci beaucoup Noélie, c'était super de t'avoir sur le podcast.
Avec plaisir.
Et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux.
Ça marche, à très vite.
Merci pour votre écoute. J'ai été ravie de parler calligraphie avec Noélie du studio Calligraphique. Après avoir parlé couture et travail du tissu avec Letty Bricole, ça c'était l'épisode 2, et carterie et travail du papier avec Isa Scrap et Création dans l'épisode 3. Courez les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Pour retrouver le très beau travail de Noélie alias Calligraphique, je vous invite à la suivre sur Instagram et sur Facebook bien entendu, et abonnez-vous à sa newsletter sur son site calligraphique.com. Et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, vous pouvez soutenir mon travail en me laissant une petite note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, sur Instagram, @podcastfaitmain ou sur mon blog motif-addict.fr. à très vite pour une nouvelle conversation avec une entrepreneure créative.